7h exactement sur France Culture. Le journal est présenté par Claire Flochel. Bonjour Claire.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Le train des primeurs à l'arrêt pour près de 3 mois. Ce train qui achemine des fruits et légumes de Perpignan à Rungis. Un dossier délicat qu'Elisabeth Borne a commencé à gérer en tant que ministre des Transports et qu'elle va continuer à arbitrer en tant que ministre de l'Écologie.
Après 18 mois de concertation, bientôt l'heure des annonces. Le haut commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, doit remettre son rapport au Premier ministre ce matin.
Rapport qui doit servir de base au futur système de retraite universel. Les pays européens divisés quant au sauvetage de migrants en mer par des ONG. Un débat avait lieu hier au Parlement européen, compte rendu dans ce journal. François de Rugy a fait ses cartons après la passation de pouvoir avec Elisabeth Borne au ministère de la Transition écologique. Elisabeth Borne qui conserve également sa casquette de ministre des Transports. Elle l'assure en tant que telle, le train des primeurs a un avenir. Ce train transporte des fruits et légumes depuis le marché de Perpignan jusqu'à Rungis. Les associations, notamment écologistes, redoutent l'arrêt définitif de cette ligne. Le train serait alors remplacé par des camions plus polluants. Il roule à vide depuis 3 jours. La région Occitanie décide donc de l'arrêter ce jeudi. Un dossier embarrassant pour Elisabeth Borne ou Anna Favennec.
En tant que ministre des Transports, ce vendredi, Elisabeth Borne avait déjà rétropédalé. Elle qui avait acté la mort de la ligne pour des raisons économiques. Le remplacement des wagons frigorifiques coûterait en effet entre 20 et 30 millions d'euros. En fin de semaine dernière, elle avait promis que le train continuerait à rouler. Mais les transporteurs ne voulant pas payer la modernisation du matériel, ils s'étaient organisés autrement. Depuis lundi, les wagons de fret circulaient donc à vide. Résultat, 25 000 camions supplémentaires affrétés par an, une facture difficile à assumer en tant que nouvelle ministre de la Transition écologique. Et ses opposants ne se sont pas fait prier pour le lui rappeler au moment de sa nomination. Des faiseuses de rails, selon l'insoumis Adrien Quatennens, une ministre des Transports qui a accompagné la réduction du fret ferroviaire pour le vert Julien Bayou. Elisabeth Borne était encore interpellée ce mercredi au Sénat sur sa gestion de ce train fantôme par un élu communiste. Dans l'après-midi à Perpignan, le ministère des Transports promettait avoir demandé à la SNCF de trouver une solution pérenne. Les deux entreprises occitanes se seraient engagées à reprendre le fret. Parmi les pistes évoquées, trouver des transporteurs supplémentaires pour utiliser la ligne dans le sens Rungis-Perpignan et pas seulement avec des wagons frigorifiques.
Oana Favennec. C'est le gros dossier de ce deuxième semestre pour le gouvernement, la réforme des retraites. Jean-Paul Delevoye remet ce matin ses recommandations. Le haut commissaire doit le présenter d'abord au syndicat et puis ensuite au Premier ministre. Une future retraite par points avec un montant calculé sur chaque jour travaillé et une fusion des régimes actuels en un système unique généralisé. Anne-Laure Chouin a rencontré celui qu'on présente comme l'inspirateur de la réforme, l'économiste Antoine Bozio.
Pour Antoine Bozio, le système actuel a permis que les retraités français vivent en moyenne plus riches que leurs collègues de l'OCDE, mais il n'est plus forcément en mesure de garantir son équilibre à long terme pour plusieurs raisons. Son manque de lisibilité d'abord, mais pas seulement.
La deuxième grande limite qui a été finalement assez peu discutée dans les débats de la réforme, c'est le fait que vos droits à la retraite, comme on les indexait pas sur l'évolution des salaires, ils perdaient de la valeur au fil et à mesure du temps. C'est pas du tout la bonne façon d'équilibrer et de garantir la soutenabilité d'un système de retraite.
Et pour cela, il est important, selon l'économiste, que la valeur future du point, selon le principe 1 euro cotisé égale à 1 point, que cette valeur donc ne puisse pas être une variable d'ajustement. Il faut l'indexer pour lui sur la croissance des salaires. Autre limite du système actuel, il est inégalitaire et favorise les carrières longues et dynamiques. Or, le futur marché du travail sera plutôt aux carrières hachées.
Par exemple, on prenait que les 25 meilleurs salaires. On se disait, ah, c'est très très bien parce qu'on ne va pas prendre les mauvais salaires. Mais lorsqu'on analyse l'impact de ces règles-là, en fait, elles vont bénéficier plus favorablement aux plus hauts salaires. Pourquoi ? Parce que les 25 meilleurs salaires, ils sont relativement plus élevés pour ceux qui finissent à des plus hauts salaires plutôt que des gens qui ont des carrières moins dynamiques, qui commencent au SMIC et finissent un peu plus au-dessus du SMIC.
Mais pour espérer que la réforme porte réellement ses fruits, il y a des conditions, estime Antoine Bozio, notamment définir des règles suffisamment strictes qui ne puissent pas être modifiées au gré des gouvernements.
Et le projet de loi sera présenté avant la fin de l'année.
Victoire pour le président et pour le gouvernement. La Cour de cassation estime que le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif est bien compatible avec les textes internationaux.
Les ordonnances travail signées il y a 2 ans par Emmanuel Macron fixent un barème entre 1 et 20 mois de salaire brut en fonction de l'ancienneté. Plusieurs conseils de prud'hommes avaient refusé de l'appliquer ces derniers mois. Ce n'est qu'un avis, mais il pourrait donc peser lourd. C'est l'avis d'Emmanuel Doc, professeur de droit à l'Université Paris-Nanterre.
C'est une décision qui va probablement marquer la jurisprudence de la Cour de cassation et qui est une décision relativement ferme qui a été rendue et qui rejette les principaux arguments qui avaient été faits pour contester la validité du droit français par rapport au droit international dans cette affaire. Alors ça conforte évidemment le plafonnement tel qu'il existe. En revanche, ce qui va se passer, et ce qui est tout de même une curiosité par rapport à cet avis, c'est que selon toute probabilité, la France va être condamnée. On attend une décision du Comité européen des droits sociaux dont tout le monde pense que ce serait une condamnation de la France. Et on attend aussi un avis des instances de l'Organisation internationale du travail, de l'OIT. Et l'OIT va aussi très probablement condamner les barèmes. Ce qui fait qu'on a une décision qui est finalement assez curieuse de la part de la Cour de cassation, qui dit le législateur français n'a pas violé le droit international. Et dans quelques mois, vous allez avoir des instances internationales qui vont dire le contraire, qui vont dire le législateur français et la Cour de cassation ont violé le droit international. Le débat va certainement continuer, mais il va être rendu plus difficile.
Emmanuel Doc, professeur de droit, interrogé par Catherine Pétillon. Revalorisation des indemnités pour les maires ruraux, droit à la formation. Ces dispositions figurent dans le projet de loi dit engagement et proximité. Il était présenté hier en Conseil des ministres. Il vise à faciliter le mandat des maires dans leur commune, les aider aussi dans leur prise de décision. Ils pourront notamment consulter en amont les préfets. L'ensemble a pour objectif de rassurer les édiles, voire de susciter des vocations. Ilan Malka.
Le texte présenté hier rassemble une série de mesures qui se veulent très pragmatiques. Par exemple, un maire aura désormais un droit à la formation dès le début de son mandat pour renforcer ses compétences, notamment en termes de gestion. Les frais de garde des enfants pourront être pris en charge, tout comme les frais d'avocat en cas de litige. Il y aura également plus de souplesse dans la répartition des compétences entre communes et intercommunalités. Est-ce que ces nouvelles règles sont de nature à apaiser, simplifier, agrémenter la vie des maires ? Oui, plutôt, nous dit l'Association des maires ruraux de France. La MRF salue une ouverture positive. Elle regrette qu'il n'y ait pas de mise en place d'un statut de l'élu local, mais elle reconnaît quand même des réponses concrètes. Maintenant, ce texte répond-il vraiment aux problématiques de fond ? Là-dessus, peut mieux faire. C'est ce que nous dit l'AMF, l'Association des maires de France, qui espère qu'il ne s'agit là que d'un premier pas. Pour elle, le principal problème est financier. Les maires ont subi des baisses de dotation, puis la suppression de la taxe d'habitation. Par quoi sera-t-elle remplacée ? Là-dessus, le texte ne dit rien. Il faudra attendre la prochaine loi de finances.
Et le texte doit être examiné fin septembre, début octobre au Sénat pour adoption avant les municipales de mars 2020 par le Parlement. Peu de détails ont encore filtré sur ce drame qui a touché l'armée française en Guyane hier. 3 soldats sont morts. Le parquet de Cayenne fait seulement savoir qu'il s'agit d'un accident. Ces 3 militaires participaient à une opération de lutte contre l'orpaillage clandestin. Alors qu'un procureur va interroger aujourd'hui Carola Racketeux, la capitaine du navire humanitaire Sea-Watch, qui a forcé le blocus maritime le mois dernier pour permettre le débarquement de 40 migrants à Lampedusa. Le sauvetage de migrants en mer par des ONG continue de diviser les pays européens. C'est ce qui ressort d'un débat qui a eu lieu au Parlement européen et qu'a suivi Johanna Hohstein. Johanna, les eurodéputés demandent à la nouvelle présidente de la Commission européenne, tout juste élue, de prendre ses responsabilités.
Depuis 2015, 150 personnes ont été poursuivies en Europe pour avoir aidé des migrants. Ce sont les chiffres de l'ONG allemande Sea-Watch. Une absurdité pour une bonne partie de l'hémicycle européen, des parlementaires de gauche et de droite qui appellent à respecter le droit international, à secourir les migrants en détresse et à les ramener dans le port sûr le plus proche. D'autres, au contraire, dénoncent l'appel d'air créé par les ONG et l'attitude de la France, à l'instar d'Annalisa Tardino, elle est eurodéputée italienne de la Ligue du Nord.
Qu'a fait la France, par exemple ? Elle a annoncé qu'elle allait remettre une médaille à Carola Racketeux, mais elle s'est bien gardée de répondre à son SOS en mer. C'est d'une grande hypocrisie que je trouve embarrassante.
Beaucoup ici attendent des mesures de la part de la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a notamment proposé de réformer le système européen d'asile pour créer davantage de solidarité entre les pays européens. Pas suffisant pour Damien Carême, eurodéputé écologiste, ancien maire de Grande-Synthe.
Ursula von der Leyen nous promet une approche plus soutenable en matière de recherche et de sauvetage. Ce jargon est indigne, car la réalité, c'est que des êtres humains se noient chaque jour et que l'Europe ne fait rien. Il est temps que cela change.
Les députés qui demandent aussi davantage de travail en amont, en Afrique, pour éviter que les migrants n'empruntent les routes de l'exil.
Johanna Hochstein. On termine par le temps de ce jeudi. Ce matin, une perturbation apporte un peu de pluie de la Bretagne et des Pays de la Loire au Hauts-de-France. Quelques nuages dans le sud-ouest, partout ailleurs, ciel ensoleillé. Ce matin, les températures sont comprises entre 11 et 18 degrés, jusqu'à 19 à 23 degrés autour de la Méditerranée.